heures. Merci d'avoir choisi Europe 1. Et bonne semaine à tous.
Midi 30, 14h.
La France bouge avec Elisabeth Assayag sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Pendant 60 minutes, on va vous montrer que les Français ont des idées, qu'il y a des hommes et des femmes de talent qui savent innover, ainsi que des associations qui inventent la société de demain. Gros plan aujourd'hui sur la pêche à l'occasion du Salon de la pêche en mer qui a lieu en ce moment à Nantes. Les Français sont bien implantés dans le domaine de la pêche et vous allez voir que de la mer à l'assiette, les pêcheurs s'organisent. Elle est née en 1827. Vous la connaissez sûrement, la fameuse bague en forme de trèfle ornée de diamants. C'est une marque qui a réussi à rendre accessible le bijou de luxe. C'est Mauboussin et c'est l'entreprise qui va bien, merci. Apprendre le piano, ça peut parfois être monotone pour les jeunes enfants. Mélopie est une méthode d'apprentissage ludique de la musique. C'est la solution et c'est la France qui bouge sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, venez nous dire comment vous mangez votre poisson, si vous vous faites livrer votre poisson à domicile, si vous pratiquez la pêche ou si la provenance de votre poisson, c'est une indication qui vous tient à cœur. Marlène, on attend toutes les questions.
39-21, oui, vous nous laissez un message et on vous rappelle bien évidemment 50 centimes la minute. Et puis, il y a bien sûr les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag Europe 1. N'hésitez pas à réagir à l'émission jusqu'à 14h.
Et pour en parler, autour de la table, dans le studio Lagardère, notre coach du jour, François Siegel, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la revue Oui Demain. Pour nous donner des tas d'autres informations pendant toute la durée de cette émission, Paul Lassen, bonjour.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à la rédaction d'Europe 1. Si la pêche a pour réputation de se pratiquer en solitaire, l'application FishFriender fait tomber ce cliché. Bonjour Grégory Turgeman.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur et le président de la société FishFriender. FishFriender, si on traduit, c'est le poisson entre amis, c'est ça?
C'est tout à fait ça. C'est le fait de pouvoir trouver des poissons et trouver des amis. Donc pratiquer la pêche d'une manière sociale.
Alors ça tombe bien parce qu'on compte environ 2 millions de pêcheurs en France. Alors pour bien comprendre, pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est une application qui nous aide à mieux pêcher grâce aux avis des autres pêcheurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, peu importe. C'est ça l'idée de FishFriender ?
Tout à fait. En fait, c'est un réseau social qui est destiné au monde de la pêche, qui va permettre d'enregistrer ses expériences. Et le collaboratif va permettre à la communauté de mieux comprendre la pratique de la pêche, de mieux étudier la ressource, donc le poisson, et donc mieux pêcher. Mieux pêcher, c'est-à-dire mieux prendre du poisson, mais aussi mieux le protéger.
Alors, c'est une sorte de carnet de pêche mobile, hein, c'est ça? Donc, on prend une photo, le pêcheur répertorie automatiquement mais tous les paramètres, hein, les c'est paramètres ça. De la météo, au moment de la prise, la date, le lieu, la pression atmosphérique, la température, le vent. Cette idée, ça vous vient de votre passion? J'imagine que vous êtes passionné de pêche, hein, depuis longtemps.
C'est tout à fait ça. Je suis passionné de pêche depuis mon plus jeune âge. Donc, beaucoup de pêcheurs ont eu la chance de connaître cette pratique dans leur jeunesse. C'était mon cas. J'ai grandi au Gabon, en Afrique. On était très proche de la nature, très proche de la mer. Et donc, j'ai pu pêcher dès mon plus jeune âge. Et depuis donc, cette époque, il arrivait souvent de prendre des photos de ces poissons. De plus en plus, on constate que les personnes prennent des photos avec leur téléphone. Donc, cette photo, une fois stockée dans le téléphone, ne sert que de galerie. Et grâce à l'application, on va pouvoir la charger donc, sur l'application. Et il y a des métadonnées qui sont dans les photos qui permettent de retrouver la position et également la date et l'heure. C'est ce qui permet de bien classer ses photos dans son téléphone. Et grâce à ces données-là, en fait, l'application va récupérer automatiquement tous les paramètres environnementaux. Donc, vous en parliez tout à l'heure, le vent, la marée, la pression, la lune, la température.
Et toutes ces données hyper précises, elles sont essentielles pour faire une bonne pêche?
Alors, lorsque vous parlerez avec des vieux pêcheurs, des personnes qui ont de l'expérience, de toute façon, on pêche mieux lorsqu'on a de l'expérience. Et c'est vrai que ces personnes-là ont l'habitude de noter toutes ces données dans leur carnet. Après, on peut trouver des corrélations entre le moment des marées, des lunes, sur le comportement des poissons.
Et ces corrélations nous permettent d'avoir un meilleur poisson?
D'anticiper des moments pour pouvoir aller pêcher au bon endroit, au bon moment, et surtout aussi avec la bonne technique.
Que dit notre coach François Siegel?
Oui, j'ai regardé l'application, elle est plutôt bien faite, elle est assez conviviale. C'est vrai que c'est assez ludique, comme vous le disiez, il y a des tonnes d'infos. Mais une fois que tout ça c'est dans le cloud, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, j'attrape un brochet, on va dire, le 24 février, effectivement, 2019. Il pèse 800 grammes. Globalement, il y avait 3 nœuds de vent ce jour-ci. Et il pleuvait, j'en sais rien, plus 12. Et après, qu'est-ce que font toutes ces infos, voilà, qui disparaissent dans le cloud, qui sont stockées dans le cloud, etc.
Alors, il y a deux destinées à ces informations et à cette action d'enregistrer ces prises. La première, c'est de pouvoir créer du lien social. Donc déjà, les personnes vont pouvoir échanger leurs informations, rencontrer des personnes, des pêcheurs, des amis.
On va se marier, quoi. Voilà. C'est un mythique de la pêche.
Et l'autre,
quoi,
Il appelle le Facebook de la pêche. Voilà, on peut se mettre d'accord.
On peut même dire le Tinder, à la limite. Et du coup, de notre côté, c'est notre job, après, de pouvoir récupérer ces datas et de les faire travailler dans un algorithme qui va pouvoir prédire, du coup, les meilleurs moments pour pêcher. Donc, le pêcheur, lui, peut se faire sa propre analyse par rapport à ses données personnelles. Plus il va enregistrer de prises, plus ça va être parlant. Et nous, par rapport aux données communes de la communauté, donc un peu comme un Waze pour une application de GPS, on va pouvoir prédire les meilleurs moments pour pêcher.
Alors, vous disiez que partager, c'est important dans la pêche. Je m'adresse à vous, Paul. Il y a FishFriender, mais il y a aussi d'autres plateformes qui permettent aux pêcheurs de se rencontrer et carrément d'aller pêcher ensemble.
Oui, absolument. Notamment une qui s'appelle Co-Fishing. Vous le disiez, c'est un moment de partage, la pêche. Mmh. Alors, ça fonctionne exactement comme un site de rencontre normal, avec une carte qui vous géolocalise, la Co-Fishers Map en l'occurrence. Vous trouvez autour de vous des personnes avec qui vous allez communiquer et à qui vous pouvez proposer d'aller pêcher avec vous ou avec vos amis. Vous avez un vrai profil en ligne avec vos préférences, par exemple si vous allez pêcher en mer ou en eau douce. C'est totalement gratuit et disponible dans toute la France. Je suis même allé faire mon curieux dans le 15e arrondissement de Paris autour de nous, et il y a trois personnes qui seraient prêtes à aller pêcher avec nous
vous.
Juste après
Pourquoi
l'émission.
Pourquoi pas après l'émission. Justement, votre appli aujourd'hui, elle a 3 ans, bientôt 3 ans, Grégory Turgeman. Vous avez rencontré énormément de succès, hein, je crois, 50 000 utilisateurs. Elle est traduite en 6 langues.
En 6 langues, ouais, c'est ça.
Donc, ça plaît à tout le monde.
Ça plaît à tout le monde. C'est vrai que la pêche, on peut considérer que c'est une niche, mais il ne faut pas oublier que c'est en France la deuxième fédération après le football en nombre de licenciés. Et donc là, on parle que des pêcheurs en eau douce, 1,5 million. On estime également à 2 millions de plus de pêcheurs qui pêchent en mer. Donc ça représente énormément de monde. Ce sont des personnes qui aiment partager, qui aiment en tout cas montrer ce qu'elles font. Et de fil en aiguille, on a pu étendre notre communauté. Donc 50 000 utilisateurs, on est présent dans 139 pays. Et du coup, en rencontrant des utilisateurs qui sont dans d'autres pays, qui nous ont demandé de pouvoir traduire l'application, ça nous amène à nous développer comme ça.
Quels sont les pays intéressés ?
Alors, beaucoup les pays de l'Est, Roumanie, on a la Russie également. Et puis, en allant moins loin, on a l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas. On a pu faire des compétitions parce que l'application permet également d'organiser des compétitions en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie.
Vous avez été incubé à la station F à Paris, c'est tout frais, hein, c'était en 2018. Ouais. Comment avez-vous fait, d'après vous, qu'est-ce qui les a séduits ?
Alors, c'est un projet passion. Donc, lorsqu'on est dans un campus de start-up comme la station F, l'humain a beaucoup d'importance et l'engagement qu'on va mettre dans son projet également. On connaît le taux de réussite des start-up, hein, c'est 1 sur 10. On peut, en étant passionné dans un projet, se permettre d'aller plus loin encore et de tenir à des situations qui ne sont pas forcément évidentes. Donc, il y avait ce premier aspect. L'autre aspect, c'est la communauté et l'engagement qu'on a réussi à construire autour de notre passion pour la pêche.
On reste ensemble. On va continuer à parler pêche dans un instant.
Il est 13h09. Europe 1. Elisabeth Assayag.
Et pas de pêche sans un bon hameçon. VMC, c'est l'entreprise qui existe depuis 200 ans dans le territoire de Belfort. Et c'est ça, la France qui bouge.
Vous écoutez La France bouge jusqu'à 14h. On parle de la pêche, de la mer à l'assiette avec vous, Elisabeth Assayag, et vos invités. Hashtag Europe 1 sur Twitter si vous souhaitez intervenir et laisser un petit message, comme l'a fait Frédéric, qui nous écrit ce sont des produits de la mer au moment de la pêche. Après, on ne sait plus vraiment.
Ah, on va en parler justement, ça tombe bien. 1 million d'hameçons tripes fabriqués par jour, c'est ce que fait VMC, une entreprise qui existe depuis 1910. Bonjour Stanislas de Castelnau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le PDG de VMC. Alors VMC, ce sont trois petites lettres derrière un immense empire industriel qui a démarré depuis plus de 200 ans. Et pour la petite histoire, vous faites d'ailleurs partie d'une association internationale discrète, les Enochiens. Ce sont les entreprises familiales bicentenaires. Comment ça a commencé ? Bon, on ne va pas refaire les 200 ans, mais pourquoi l'hameçon ?
Alors l'hameçon, c'est fabriqué à partir d'un fil d'acier. Et donc c'est le travail... C'est l'industrie, le travail du fil d'acier qui est à l'origine de cette entreprise. Et c'est donc la famille Viellard, la famille d'actionnaires qui sont des Enochiens et qui sont venus dans la fabrication de l'hameçon en 1910 comme une diversification et en utilisant leur expertise dans le fil d'acier.
Alors vous l'avez dit, Vielard, hein, parce que VMS, c'est Vielard Mijon Compagnie. Et la famille Vielard avait misé sur l'hameçon pour concurrencer déjà un industriel à l'époque qui fabriquait aussi des hameçons. L'entreprise s'est développée, vous êtes devenu leader en France. Et aujourd'hui, c'est un succès énorme. Hein. Vous êtes passé de 5000 hameçons produits par jour à 60 000. Vous fabriquez tout à 100%.
Oui, alors la réussite de l'entreprise, c'est vraiment la technologie.
Et même vos machines, je crois,
On fabrique une machine spéciale qui a été conçue dans les années 70, qui permet de fabriquer un hameçon triple entièrement à partir de deux fils d'acier. Et ça nous donne un avantage concurrentiel considérable sur nos concurrents, car on est capable d'être beaucoup plus productif et également d'avoir une qualité très constante.
Des hameçons destinés pour la pêche artisanale en mer, pêche sportive, sportive en mer, en eau douce, pêche commerciale, industrielle. Que dit notre coach ?
Il dit que c'est incroyable de maintenir effectivement de ce genre d'industrie en France. J'imagine qu'il doit y avoir de la concurrence, évidemment de la concurrence chinoise, qui doivent vous sortir de l'hameçon effectivement pas cher, évidemment en grande concurrence. Donc c'est intéressant de savoir comment on subsiste aux crises. Voilà, ça c'est une première question. Puis après, je pense que les produits ont beaucoup évolué. Et puis j'ai aussi d'autres questions à vous poser sur les produits eux-mêmes.
Vous allez les poser.
D'accord, oui. Donc principalement, le succès de VMC est basé sur la technologie, comme je l'expliquais, mais également sur les hommes. Nous sommes labellisés entreprise du patrimoine vivant, qui donc récompense les entreprises qui ont un savoir-faire quasiment artisanal. Donc les
monter et industriel. Et industriel,
oui, tout à fait. Donc monter un hameçon sur machine, ça prend beaucoup de mois et voire d'années de formation. Et donc tous nos monteurs sont formés en interne. Et ça, c'est une de nos grandes forces. C'est pour ça aussi qu'on veut rester en France et qu'on arrive, grâce à cette expertise, à être rentable de manière durable et avoir un succès dans le monde entier, puisqu'on est évidemment très exportateur. On est leader mondial sur l'hameçon triple, l'hameçon à trois branches, grâce à cette technologie, une fois de plus. Et ça nous permet de nous développer sur cette base.
Alors, vous voulez rester en France. En 2000, il y a eu un mariage avec une entreprise finlandaise, Rapala, qui est spécialisée dans les fabricants de leurres et dans la vente d'articles de pêche. Est-ce que, justement, c'était pour conquérir un marché américain, pour être encore plus gros que ce que vous n'étiez déjà ?
Exactement. En fait, VMC a eu une belle croissance sur l'hameçon triple de partir des années 70 jusqu'à la fin des années 90. Et son modèle commençait un peu à s'essouffler parce qu'aux États-Unis, qui est le premier marché de pêche dans le monde avec plus de 50 à 60 millions de pêcheurs, on a besoin pour se développer de gros moyens marketing. Et donc VMC, c'est une PME mondiale, mais c'est quand même une PME. Hein, le chiffre consolidé dans notre groupe, il est de 20 millions d'euros. L'entreprise a 150 personnes dans l'usine française. Et donc, elle avait besoin de s'adosser à un groupe plus important. Et c'est cette opération qui a été faite en 2001 et où la famille Vielard aussi a pris le contrôle du groupe en étant l'actionnaire de référence, puisque la société Rapala est cotée en bourse de Finlande. Et donc 40% de ce groupe est détenu maintenant par la famille Vielard.
Vous êtes toujours sur le territoire de Belfort, hein, c'est là que se trouve encore le siège de la holding familiale. C'est quoi le secret de votre savoir-faire ? Il y a les machines, oui, il y a les hommes que vous formez depuis le début, mais il y en a plein des boîtes comme ça et pourtant ça ne marche pas aussi bien. Quel est le secret ?
Le secret, c'est le travail, je pense. Travail et puis évidemment la passion, puisque la pêche aussi, c'est une activité de passionné. Et donc, on a beaucoup d'employés qui aussi mettent toute leur passion dans leur travail. Voilà. Et puis, c'est un métier quand même qui est extraordinaire, hein, puisqu'on a accès au monde entier. On pêche dans tous les pays du monde, à toutes les cultures. Le Japon, par exemple, c'est aussi un grand pays de pêcheurs. La Chine et tous les pays européens avec des tas de variétés de styles de pêche différents. Donc c'est un univers passionnant.
Paul, on va voir qu'il existe aussi d'autres entreprises qui permettent aux pêcheurs de bien s'équiper. Vous en avez trouvé une, l'un des leaders dans le domaine de la pêche au leurre.
Oui, ça s'appelle Ultimate Fishing. C'est une PME installée en Bretagne à Belle-Île-en-Mer depuis près de 10 ans maintenant. Il y a une petite vingtaine de salariés. Alors ils dessinent, colorent et conçoivent leur canne à pêche et leur leurre en France. Petite précision, vous faites tout en France. VMC, eux, construisent au Japon, parce que c'est, vous le disiez, un grand pays de pêche et ils considèrent qu'ils ont une très bonne expertise. Alors, petit catalogue, il y a 10 000 références en tout et des produits plutôt haut de gamme puisque les prix des leurs peuvent aller de 10 à 50 euros. Et pour les cannes à pêche, ça peut monter jusqu'à 1 000 euros pour les plus sophistiqués. Alors, c'est un prix qui peut paraître élevé, mais leur ambition à Ultimate Fishing, c'est de toucher tous les publics, les professionnels, mais aussi les amateurs qui souhaitent pratiquer une pêche responsable en les responsabilisant justement sur le matériel qu'ils utilisent.
François, vous vouliez ajouter quelque chose?
Ben oui, le constat, en fait, c'est que la pêche de loisir ou sportif, ça marche bien. C'est pourtant une activité qu'on pourrait considérer comme un peu surannée, quoi. C'est la tradition, on va au bord. C'est le seul endroit, c'est d'accord, où on peut être un peu tranquille, mais globalement, prendre son temps, prendre un hameçon, aller taquiner le goujon au bord de l'eau, on a plutôt l'impression qu'avec la société moderne, tout ça est balayé. Bah, première constat, non, à moins que vous nous disiez le contraire. Et puis, en regardant un peu le dossier, j'ai vu aussi que les hameçons devenaient écolos, si je puis dire. Moi, j'ai appris qu'en gros, on pêchait non pas pour ramener du poisson, mais pour le rejeter à l'eau. Hein, et que les hameçons avaient évolué, c'est-à-dire que pour moins blesser le poisson, pour que les matières premières ne soient pas, ne rouillent pas, donc ne soient pas, vous voyez, contraignantes au niveau, voilà, au niveau santé du poisson. Alors voilà, j'ai appris des choses en regardant un peu voilà, comment se passait le monde des hameçons.
Oui,
est-ce que vous me le confirmez ?
Tout à fait. La pêche se développe encore beaucoup dans des tas de domaines, de techniques de pêche différentes, mais elle souffre un peu d'un manque de médiatisation. Donc, je vous remercie d'ailleurs de porter l'éclairage sur cette activité. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup d'évolutions dans la pêche.
Et vous continuez à travailler sur des nouveaux modèles, des nouvelles techniques ?
Ah oui, en permanence, hein, puisque c'est un produit technique, mais de grande consommation. Donc, le marketing est très important et nous faisons des nouveautés régulièrement, soit sur les revêtements qu'on met sur nos hameçons, soit sur les formes, soit même sur un acier encore plus résistant. Donc, on travaille en permanence le marketing et les nouveaux produits pour aussi attirer pas seulement le poisson, mais aussi les pêcheurs.
On reste ensemble, on va continuer à parler pêche dans un instant.
Il est 13h19.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Se faire livrer à la maison du poisson en quelques clics, c'est le pari d'une entrepreneuse qui a osé investir ce marché plein d'avenir.
Et on retrouve Elisabeth Assayag pour la suite de La France bouge. Elisabeth qui nous rappelait en début d'émission que les Français consommaient en moyenne 34 kilos de poisson par an et par habitant. On parle de pêche. On s'intéresse aussi aux innovations avec vos invités. Hashtag Europe 1 sur Twitter si on souhaite réagir et poser des questions.
Oui.
39-21 également, c'est le standard d'Europe 1. N'hésitez pas à laisser un petit message et puis on vous rappelle et vous pouvez passer en direct à l'antenne.
Oui, nous sommes, nous les Français, parmi les plus gros consommateurs de poissons d'Europe. Ce marché est dominé par quelques grossistes de premier plan, mais aussi par des milliers d'acteurs indépendants de détail. Et là, on va en découvrir un tout nouveau avec Pêcher Maison. Bonjour Mélissande Nourry.
Bonjour.
Vous êtes la créatrice et la gérante de Pêcher Maison. Vous êtes située en Vendée. Alors, vous avez 28 ans et à l'origine, vous n'y connaissiez pas grand-chose dans le poisson puisque vous êtes diplômée dans le marketing.
Tout à fait.
Comment vous en êtes arrivée là ?
Du coup, c'est mon père qui était dans le poisson, qui avait un atelier de transformation. Et à la fin de mes études, avant de trouver mon premier job, j'avais fait quelques mois dans cet atelier de transformation.
Ça vous avait plu ?
Oui, et en fait, c'était de se rendre compte qu'on avait du poisson frais, nous, à disposition sur les côtes, et qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas de poisson aussi frais dans tout le reste de la France, et que du coup, c'était quelque chose qu'on pouvait créer, d'apporter du poisson frais partout en France.
Et vous aviez organisé, je crois, des ventes directes en Vendée déjà aux consommateurs locaux ?
C'est ça, où les personnes pouvaient venir, donc les personnes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, pouvaient venir directement à l'atelier, acheter leur poisson et donc voir où il était coupé, comment, par qui. Parce que les gens ont de plus en plus envie de savoir, d'avoir de la transparence. Donc du coup, en voyant que ça plaisait beaucoup, je me suis dit qu'on pouvait étendre le concept depuis Saint-Gilles-Croix-de-Vie à toute la France.
Donc bon, votre papa était dans le domaine du poisson, mais vous avez fait vos études. Vous travaillez alors dans une start-up.
Tout à fait.
Donc, rien à voir avec le poisson.
Rien à voir avec le poisson. Et non, mais ça m'a donné justement ce petit... On a toujours peur de se lancer, de travailler dans une autre start-up où on voit que de toute façon, il faut essayer, se tromper, tester plein de choses différentes. Je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire avec mon projet et mon idée à moi.
Donc, comment vous avez mûri votre projet ? Vous avez fini par démissionner ?
Tout à fait.
De votre poste de la start-up, pour vous lancer dans cette aventure, comment le projet est né ?
Alors du coup, bah, moi j'ai été voir un atelier en Vendée où j'ai demandé est-ce qu'on peut avoir un partenariat où je pourrais conditionner mon poisson ? Et j'ai été rencontrée à la criée de Saint-Gilles des Marailleurs. Donc, c'est des grossistes en poisson qui achètent en criée et qui, après, eux, revendent à différentes personnes. Et donc, en présentant mon idée, leur dire que je voulais lancer un site internet et donc, comme ça, de créer des partenariats avec des acteurs locaux à Saint-Gilles.
Ça a été bien accueilli ?
Très bien, parce que les personnes savent que justement la vente en ligne va se développer, les personnes achètent de plus en plus en ligne, oui, même du frais.
Oui, il y en a beaucoup déjà pour la viande. Hein,
exactement, ouais. Et qu'on savait que le poisson a toujours peut-être un petit train de retard, mais que ça allait se développer, c'est des personnes où eux, Internet, ça ne leur parle pas forcément, et gérer un site, c'est pas leur cœur de métier et ce qu'ils savent faire. Donc ils se disent que s'il y a quelqu'un, donc, comme moi avec Pêcher Maison, qui peut... prendre des bons produits de la côte, les mettre en ligne et les amener aux consommateurs. Donc, c'est gagnant pour tout le monde.
Alors, aujourd'hui, ça fait un peu plus d'un an. Vous en êtes où ? Ça marche bien ?
Ça marche bien. Et en fait, ce qui
donc, vous livrez le poisson ?
Je livre le poisson.
Partout en France ?
Partout en France, grâce à ChronoFresh. En fait, le poisson, par exemple, mes colis aujourd'hui sont partis ce midi, là, et vont arriver demain, avant 13h, dans le nord de la France, à Paris ou autre.
Notre coach, François, que dites-vous ?
Je voulais vous faire participer, profiter d'une expérience en direct parce que j'ai été sur le site, j'ai commandé.
Vous avez commandé ?
Oui, j'ai commandé.
Très bien, quel bon élève.
Malheureusement, j'ai fait ça vendredi, donc je ne suis pas tombé dans les bons créneaux. Donc, je n'ai pas reçu à temps, mais il va arriver là
mais
aujourd'hui,
je crois. On m'a prévenu que...
Oui, parce qu'en fait, il a été... Alors, le poisson frais qui part aujourd'hui, il a été récupéré en criée ce matin pour partir ce midi.
D'accord. Donc, s'il a passé commande vendredi, il aura quand même du poisson d'aujourd'hui.
Du poisson, voilà, qui aurait été en criée ce matin. Super. Tout à fait.
Et par rapport à un circuit traditionnel, c'est-à-dire, je vais acheter mon poisson chez mon poissonnier, on va dire, du coin de la rue. Ce poisson-là, il a combien de jours il se promène pendant combien de temps depuis qu'il quitte la Vendée, la criée de Vendée ?
En circuit traditionnel, on peut aller de 2 à 6 jours entre le moment où le poisson il va partir de la criée de l'atelier de transformation. Mmh. Ensuite, il peut passer chez un grossiste ou dans des centrales pour ensuite aller chez le poissonnier où il peut peut-être rester 1 ou 2 jours. Donc avant d'arriver chez vous, il peut se passer jusqu'à 6 jours.
Et avec vous, j'ai la certitude qu'il n'a pas 4 jours de glace derrière. Quoi,
exactement,
le
parce que du coup, Pêcher Maison, je fonctionne en flux tendu, donc j'ai zéro stock. C'est vraiment ce que mon fournisseur, donc ça, c'est arrivé de la criée ce matin. Et ça va partir directement dans la journée. Donc, c'est en fraîcheur que vous y gagnez complètement.
Qui achète ? C'est plutôt des citadins ?
Alors, c'était la surprise. Non, c'est plutôt des personnes en province de plus de 60 ans. Donc, ce sont les plus grands consommateurs de poissons. Et donc, voilà, ce n'est pas forcément les citadins.
Alors, vous avez dit depuis le début, quand vous avez présenté votre projet, que vous vouliez donner une image glamour du poisson. C'est quoi une image glamour du poisson ?
C'est plutôt le poisson, on n'a pas forcément l'habitude de le consommer. C'est quelque chose, pour les générations plus jeunes en tout cas, où on n'a pas l'habitude de le cuisiner. On se dit, ça sent, c'est pas... Et alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. C'est juste, si on a des bons produits, ça peut être simple à cuisiner, très savoureux. Et on peut aussi totalement faire des belles photos pour les réseaux, même avec du poisson.
Alors là, vous êtes en vente directe, il n'y a pas vraiment d'intermédiaire. Les prix sont moins élevés.
Alors, pas forcément, parce que donc tout est découpé à la main, c'est des filets et des pavés, ensuite conditionné individuellement sous vide, donc c'est de la main-d'œuvre et de la préparation, et ensuite tout est expédié en colis réfrigéré, et donc c'est une livraison en 24 heures réfrigérée, ce qui a forcément un coût, vu qu'on est livré à domicile. Donc le service est un petit peu différent d'un service traditionnel, et donc les prix, c'est pas forcément, c'est à peu près similaire.
On reste ensemble ? On continue à parler du poisson, de la mer à l'assiette.
Il est 13h27.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
39-21, venez, on vous attend, vos témoignages, vos questions. Nos invités sont là pour vous répondre et pour échanger avec vous. À tout de suite.
Et vous écoutez toujours La France bouge jusqu'à 14h avec Elisabeth Assayag. On rappelle que ce week-end, le salon de la pêche en mer à Nantes accueillait les pêcheurs plaisanciers, les passionnés de pêche. Vous étiez peut-être, vous, présents, vous qui nous écoutez sur le 104.7, c'est la fréquence d'Europe 1 à Nantes. Hashtag Europe 1 pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et c'est l'occasion de braquer nos projecteurs sur la pêche, sur les acteurs majeurs de la filière et tous les passionnés de la pratique de la pêche en mer.
Et nous sommes toujours avec notre coach du jour, François Siegel, fondateur de la revue Oui Demain, avec Paul Lassen de la rédaction d'Europe 1 qui est là pour nous apporter des tas d'infos en plus. Et avec nous pour en parler, nous sommes avec Stanislas de Castelnau, le PDG de VMC Pêche, fabricant d'hameçons depuis 1910, Grégory Torgeman de Fish Friender, ainsi que Mélisande Nourry, la fondatrice de Pêcher Maison, du poisson frais livré depuis la Vendée. On en parlait tout à l'heure avec vous, Grégory Torjman. Vous disiez que c'était aussi Fishfinder, ce réseau social entre pêcheurs. C'est aussi une façon de mieux pêcher, de protéger aussi certaines espèces. Mais comment savoir, comment les protéger justement avec votre appli ?
Alors, vous devez savoir qu'il y a des espèces qui sont souvent citées comme étant en voie de disparition. Si on prend par exemple le cas de la pêche en mer, vous évoquez le salon de Nantes. Actuellement, la pêche du bar est sujet à beaucoup de discussions parce qu'on estime que le stock de bar est en train de diminuer. Et en fait, on attribue, donc c'est l'Union européenne qui va attribuer des quotas sur la pêche du bar, à la fois aux pêcheurs de loisirs, comme dont nous faisons partie, et également aux pêcheurs pros. Et ces quotas sont censés être basés sur des données qui sont collectées. Donc, c'est-à-dire combien de poissons ont été pêchés, quelles sont les périodes de reproduction.
Et on le trouve sur votre appli.
Alors, notre application permet, en fait, les pêcheurs professionnels sont obligés de déclarer leurs prises, puisqu'après, ils vont les vendre. En pêche récréative, il n'y avait jamais eu de système de collecte de données. Donc, nous, les pêcheurs ont toujours été, en fait, des vigies des milieux aquatiques. Ils permettaient d'estimer les populations de poissons, mais aussi de signaler des pollutions de par leur contact avec la nature. Et donc, dans cette application, le fait d'enregistrer ces prises va permettre de collecter des informations sur les quantités, les tailles de poissons qui sont prises, les zones, et également si le poisson a été relâché ou non, et donc de mesurer l'impact qu'on peut avoir.
Donc, avec vous, avec Fishfinder, on a la possibilité d'avoir une traçabilité de tout ce qui est pêché, même en pêche de loisirs.
Exactement, à partir du moment où l'application est utilisée par un maximum de personnes, et ça nous a valu d'être invité en Commission européenne pour présenter notre application à l'ensemble des États membres qui pensent à mettre en place un système identique.
Vous allez peut-être travailler avec eux en direct.
On espère. Ils nous écoutent.
Mélisande Nourry, comment savoir la façon dont sont pêchées les espèces vendues ?
De toute façon, c'est obligatoire pour les pêcheurs et les mareyeurs, donc ceux à qui on achète, de nous dire avec quelle technique, quel type de bateau. Donc moi, par exemple, je sais que mes soles ont été pêchées par des petits bateaux au filet à proximité des côtes vendéennes.
Paul, justement, pour savoir quels poissons nous avons dans notre assiette, avec vous, Mélisande, vous disiez que c'était qu'on le savait, mais pour les consommateurs, ce n'est pas toujours évident parce que je crois qu'il n'y a pas d'étiquetage de poissons très, très clair.
Oui, il y a une étude de l'UFC Que Choisir qui nous révèle que cet étiquetage n'est souvent pas conforme. Pour le cabillaud, la sole et le bar vendus en grande surface, dans 66% des cas analysés, l'étiquetage est non conforme. Des informations qui manquent, floues, voire fantaisistes, notamment sur la zone de pêche. Ironiquement, UFC Que Choisir pointe la zone atlantique, donc c'est absolument impossible de savoir où le poisson a été pêché. Depuis 2014, pourtant, la zone de capture et la technique de pêche doivent en principe figurer sur les étiquettes de tous les produits de la mer. Autre chiffre alarmant révélé par l'UFC, 86% des poissons vendus dans les grandes surfaces sont pêchés selon des méthodes non durables et dans des stocks surexploités.
François ?
C'est un peu la même question, donc je reviens effectivement sur Pêcher Maison. Donc vos poissons sont des poissons naturels, ce n'est pas des poissons d'élevage, même si c'est de l'élevage en mer. Parce qu'il paraît qu'on voit, en gros, quand on commande un poisson, allez, une dorade grillée dans un restaurant, on va dire 80% c'est du poisson d'élevage. Donc vous, c'est du poisson sauvage.
C'est du poisson sauvage, tout à fait. À part pour le saumon, je fais un petit peu de saumon qui est là d'élevage.
Alors il faut opter pour le poisson d'élevage ?
Alors après, c'est un débat justement sur est-ce qu'il vaut mieux de l'élevage où on sait au moins ce que les poissons auront consommé. Et il peut y avoir des élevages en plus où la densité des poissons est très contrôlée. Et donc, il y a du bon et du mauvais dans les deux.
Alors aujourd'hui, là, par exemple, que faut-il consommer en poisson pour nos auditeurs là ? Que faut-il choisir ? Quel est le meilleur poisson où on mange bien et on n'a pas forcément endommagé l'environnement ?
Moi, les poissons les produits que je recommande en ce moment, ça va être du merlu, du merlan de ligne et de la sole qu'on a à proximité de nos côtes.
Alors, Paul, il existe pour les consommateurs qui souhaitent aussi consommer en circuit court pour savoir exactement ce qu'ils mangent. Il existe des plateformes pour les guider.
C'est absolument. J'en ai choisi deux pour nos auditeurs. La première s'appelle Poiscaï qui propose des paniers de la mer un peu sur le modèle des paniers de légumes bio. La plateforme travaille en direct avec une soixantaine de pêcheurs aux pratiques durables sur tous les littoraux français. Vous pouvez recevoir chez vous toutes les semaines un colis qui contient soit 1 kg de poisson, soit 2 kg de coquillages. C'est un peu selon les goûts, tout ça pour 20 € par semaine. Autre possibilité, si cette fois vous préférez aller chercher votre poisson vous-même, c'est le label Monsieur Goodfish, qui est un programme européen qui a pour but à la base de sensibiliser le public et les professionnels à la consommation durable des produits de la mer. Mais vous pouvez également, vous, aller sur le site de Monsieur Goodfish, retrouver des conseils pour savoir quel poisson consommer selon la saison ou acheter où est-ce que vous pouvez l'acheter.
Stanislas de Castelnau, vous, chez VMC Pêche, vous faites attention justement à tout ce qui est pêche durable, la façon dont on pêche, quel type d'espèce.
Oui, bon, après, c'est la liberté du pêcheur, mais nous lui offrons tous les outils dont il peut avoir besoin pour aussi traiter correctement le poisson.
Mais ça fait partie de la culture d'entreprise aussi, de savoir, ok, vous vendez des hameçons, mais ensuite, ça va où et comment ?
Ah bah oui, nous, on étudie effectivement nos clients pour connaître leurs habitudes et on suit les évolutions. Et effectivement, la préoccupation environnementale fait partie de notre ADN. On a aussi de la chimie dans l'entreprise, vous savez. Donc, nous, on est contraint, ce qui est normal, à traiter nos eaux usées pour les rejeter dans une rivière qui soit saine. Ce serait quand même dommage qu'on pollue les rivières.
Merci en tout cas à tous les trois d'être venus sur Europe 1 nous parler de vos activités. Merci beaucoup.
Il est 13h36.
Europe 1. Elisabeth Assayag.
C'est une entreprise née en 1827. C'est la réussite de la joaillerie haut de gamme à la portée du plus grand nombre. C'est Mauboussin et c'est l'entreprise qui va bien, merci.
Europe 1.
La France bouge, se poursuit avec vous Elisabeth Assayag et avec une entreprise qui va bien.
Oui, parce que rendre des bijoux de luxe à la portée du plus grand nombre et qu'il n'y a aucune raison de ne pas avoir accès à ses rêves, c'est ce que fait Mauboussin, ce groupe français de joaillerie qui existe depuis 1827. Bonjour Alain et Marc.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le président de Mauboussin depuis 17 ans et on vous surnomme le rebelle de la place Vendôme parce que je crois que vous avez bousculé beaucoup de choses dans cette maison.
Je crois que j'ai bousculé il y a 17 ans un peu la règle du jeu de ce métier qui était de considérer que La joaillerie, c'était essentiellement un métier où on vendait des trophées à des hommes pour qu'ils les offrent de temps à autre à d'autres trophées et qu'en fait, ils se servent de leur compagne comme de sapin de Noël dans les soirées pour démontrer leur puissance.
Donc, c'était d'abord un changement engagé de
c'était
votre
un
part.
Changement, c'était un changement réaliste parce que en fait, j'étais rentré en classe préparatoire à HEC la première année où les filles étaient acceptées. Et moi, j'avais vécu en fait l'évolution de la société depuis mes 20 ans comme étant en fait un rééquilibrage social. Et dans ce rééquilibrage social, il était évident pour moi que les femmes souhaiteraient, dans les années qui venaient, porter des bijoux qu'elles choisissaient.
Qu'elles choisissaient elles et non pas...
Exactement, qui étaient en fait des éléments
compagnon.
Identitaires, qui étaient une seconde peau. Et il me paraissait essentiel de féminiser ce métier, c'est-à-dire en fait... de le destiner aux femmes.
Alors vous avez été le patron d'Yves Saint-Laurent, de Kenzo, et c'est le propriétaire de Mauboussin, Dominique Frémont, qui vient vous chercher en 2002. Et là, donc, quand vous arrivez, vous cassez les codes, puisque vous êtes arrivé avec ce constat que vous venez de nous décrire, et vous reconsidérez la place de la femme dans la société, à tel point que vous décidez même de lancer des campagnes de pub dans le métro, ce qui était totalement nouveau. Enfin, ça n'existe toujours pas pour d'autres maisons de luxe.
Je décide d'abord de relancer une politique de création plus proche de la création de la mode, c'est-à-dire de mettre en place un système de collection sortie tous les ans. Aujourd'hui, on est dans un système où on sort des nouveaux objets quasiment tous les 6 semaines.
Donc comme dans la fast fashion, entre guillemets, dans le textile.
Il n'y a pas de différence, puisqu'en fait, si on est au service de la respiration des femmes, il faut leur apporter des éléments de respiration fréquemment. Donc en fait, on a mis en place une nouvelle politique de création, une nouvelle politique de prix, d'accessibilité, parce que si on veut que les femmes puissent acquérir en fait ces bijoux, il faut le rendre accessible à elles.
Donc et vous avez baissé les prix.
On a baissé les prix significativement. Hein. C'est-à-dire que, en gros, le prix moyen d'un objet chez Mauboussin en 2001, ça devait être 7 000 €. Et un an après, ça devait être 2 500 €. C'était encore cher.
Au détriment de la qualité ?
Pas du tout, c'est le même produit. C'est le produit qui était fabriqué dans les mêmes usines. C'était ça le pari pour l'actionnaire qui était venu me chercher, c'est qu'en fait, il fallait accepter de baisser les marges à un moment donné où la situation financière de la maison était un peu précaire. Mais enfin, il a fait le pari.
Il vous a suivi.
Il m'a suivi. Et une fois qu'on a eu en fait un produit créatif et bien placé, bah, il fallait évidemment le dire. Donc la communication était clé. Donc effectivement, on a bousculé les codes en matière de création. D'autant plus que avant, la communication dans ce métier était institutionnelle. On communiquait sur les marques. Et moi, j'ai voulu communiquer sur l'objet, puisqu'en fait, si on créait, il fallait communiquer sur l'objet.
Et vous bousculez tellement les codes qu'en 2015, vous quittez la prestigieuse Place Vendôme, dont tout joaillier rêve, pour aller quelques mètres plus loin, rue de la Paix. Bon, c'est pas très loin, mais c'est tout un symbole.
Oui, c'est pas forcément d'ailleurs un gros élément de symbole. La rue de la Paix, en fait, est à Paris la première rue qui a été créée pour le luxe. Ensuite, on est à 150 mètres ou 200
mètres.
Mais
les joailliers de la Place Vendôme...
Mais disons que c'était un moyen de bouger encore un tout petit peu plus le schéma. En fait, c'était un moyen pour moi d'aller chercher du trafic, parce qu'il y a plus de trafic rue de la Paix que Place Vendôme. Donc, au fond, j'ai eu l'opportunité de le faire, je l'ai fait. Il faut savoir qu'entre-temps, les Champs-Élysées avaient pris une place très importante dans notre métier, puisqu'en fait, la première boutique à Paris, en termes de volume, était la boutique des Champs-Élysées.
Et d'ailleurs, vous mettez l'accent sur le marché français en ouvrant des boutiques, pas seulement à Paris, mais un peu partout en France. C'est-à-dire que vous faites venir les codes parisiens en région.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on va partager. Si l'accessibilité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, certes, d'être accessible en termes de prix, ou en tout cas plus accessible, parce qu'il ne faut jamais se tromper sur la notion d'accessibilité. On n'est pas accessible, malheureusement, au plus grand nombre. Mais c'est aussi d'être accessible physiquement. Alors, on est accessible par des magasins qui se diffusent un peu. On a 60 magasins à l'enseigne en France aujourd'hui. Mais également grâce à un site marchand qui se développe fortement, qui est aussi un accompagnement de l'accessibilité. Et puis, au fond, il ne faut pas oublier, quand on parle de Montboussin, qu'on est une entreprise d'abord française, puisqu'on fait 74% de notre chiffre d'affaires en France, on fait 14% au Japon. Donc on n'est pas dans la stature d'une entreprise internationale qui est présente partout dans le monde. On a une spécificité forte. Ensuite, j'ai rapatrié l'intégralité de mes fabrications joaillières sur l'Europe, et majoritairement en France. C'était bien pour moi de pouvoir le faire dans un contexte où mes usines sont proches de mes boutiques. Donc au fond, toute la chaîne logistique
est localisée en France. Notre coach François, que dites-vous ?
Dans le monde actuel compliqué pour le commerce, donc vous restez effectivement sur un produit épaulé par une marque solide que vous décidez d'ouvrir, un peu comme Cartier avait fait il y a très longtemps avec les Must, quoi, pour ne pas rester effectivement dans les clientèles les plus ultra, mais en même temps, vous restez aussi sur le commerce traditionnel. Hein, j'ai même vu que vous aviez ouvert des bars à chocolat quoi, dans vos boutiques. Non, c'est... Tout ça fait partie, j'imagine, d'une stratégie hein, pour essayer globalement qu'il se passe un moment, je dirais, particulier quand on vient chez vous rencontrer le produit.
Le bar à chocolat, c'était une expérience sur les Champs-Élysées que je n'ai pas renouvelée parce que c'était quelque chose de très, très difficile à faire vivre, même dans un seul magasin. Alors, dans 60, ça serait aujourd'hui très compliqué. En fait, un magasin, au fond, c'est quoi ? Un magasin, c'est un outil pour mettre l'objet à proximité de ses clients potentiels. Et c'est vrai que la France ne se résume pas à Paris. La France, c'est aussi des métropoles régionales. Mais ça n'est pas que des métropoles régionales. C'est aussi beaucoup de villes dans lesquelles il y a, à partir de 80 000 habitants dans une zone, on a les moyens de faire vivre en fait, une boutique Montboussin, c'est-à-dire d'apporter en fait, nos objets à proximité. Et en fait, de partager la création avec le plus grand nombre. Quand je suis implanté à Angoulême, hein, ou à Compiègne, ou à Châlons, ou à Amiens, enfin dans des villes de cette dimension-là, je vais en fait au-devant d'une clientèle qui a besoin en fait de respirer, qui a besoin de respirer cette création. Au fond, qu'est-ce que c'est que le métier de joaillier ? C'est un métier de créatif. Et cette maison de création, elle a besoin de proposer ses créations au plus grand nombre, de les faire voir, de les faire connaître.
Et enfin, quel est l'objet qu'on achète le plus chez vous ?
Bah, historiquement, maintenant, c'est la Chains of Love hein, qui a été créée en 2005.
C'est cette bague en forme de trèfle ornée de diamants.
Qui est totalement mythique.
Elle coûte combien ?
Elle coûte, alors, elle a des prix différents, puisqu'en fait, commence avec un 10 centième où elle est à un peu moins de 1000 euros et... elle coûte, avec un diamant de 1 carat, elle doit coûter plus de 14 000 euros. Mais en fait, Ce qui est intéressant d'abord, c'est de savoir qu'elle est toujours dans cette position mythique, mais qu'elle est, elle est bousculée en ce moment par une bague qui s'appelle Capsule d'émotion, dont on voit le film à la télévision, et qui est une bague à 395 € en or, avec des pierres précieuses, des saphirs, des rubis et des émeraudes. Et en fait, cette bague-là, ce qui est vraiment la bague de l'air du temps, on en vend quand même entre 50 et 100 par jour. Ça, c'est en train de bouleverser un peu la hiérarchie chez moi. Mais au fond, ce qui est important, ce n'est pas ça. C'est d'aller à la rencontre des femmes qui voient dans ce bijou peut-être un accessoire de vie. Pas un accessoire de mode, mais un accessoire d'existence. Et au fond, le bijou a une fonction sociale, a également une fonction d'ouverture sociale qui, pour moi, est essentielle.
Vous racontez une histoire avec vos bijoux. Pour les femmes, un magasin en France il y a 20 ans. Aujourd'hui, ce sont 60 magasins en France. C'était Mauboussin. Merci Alain et Marc d'être venus nous présenter votre belle entreprise. Et c'est l'entreprise qui va bien, merci.
Merci à vous.
Il est 13h50.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Des cahiers ludiques et une méthode d'apprentissage des notes basée sur l'histoire de petits personnages. C'est Mélopie, c'est la solution pour apprendre la musique dès 3 ans.
La France bouge, suite et fin, Elisabeth Assayag, on termine toujours l'émission par une solution.
Mais oui, et aujourd'hui la solution, c'est avec vous Paul Lassen. Vous nous parlez d'une méthode éducative un peu particulière, elle permet aux enfants d'apprendre la musique et ça s'appelle Mélopie.
Oui absolument, si vous en avez marre que vos enfants reviennent complètement traumatisés de leur cours de solfège parce qu'ils ne comprennent rien aux partitions, ou si vous rêvez de les voir parler un meilleur anglais que le vôtre, eh bien Mélopie peut vous aider. En quelques mots, Mélopie, c'est une entreprise qui propose des méthodes d'apprentissage pour les enfants, des méthodes ludiques basées sur le jeu et sur des petites histoires amusantes qui vont aider les enfants à comprendre ce qu'est une partition, par exemple, où se situe et pourquoi, pourquoi les notes se situent là où elles sont. Pareil pour le cours de langue où tous les sens sont utilisés pour permettre au final à vos enfants d'apprendre plus de 600 mots. Quand on sait que c'est à peu près le nombre de mots qu'il faut pour tenir une conversation basique, c'est plutôt pas mal.
Bonjour Diane Durand.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes à la tête de cette méthode de Mélopie. D'abord, c'est quoi Mélopie et d'où ça vient?
Alors Mélopie, tout d'abord, ça a été créé par ma mère qui voulait que ses enfants apprennent la musique d'une façon plus douce. Donc elle a créé cette méthode pour nous et puis ça a marché. Donc ça a été pour les copains. Et puis, elle a commencé donc à faire des cours. Elle a fait son premier cours. Donc, en fait, les cours avaient lieu chez un parent hôte. Et il se trouve que le premier parent hôte, ça a été Marie-Sophie Lelouch. Du coup, ça a permis de faire connaître un petit peu la méthode, son fonctionnement. Et maintenant, ça fait 30 ans que ça existe. On a plus de 50 professeurs qui travaillent avec nous. On peut utiliser la méthode avec un professeur ou avec un parent à la maison. Et donc, c'est toute une approche qui est ludique.
Et du coup, c'est quoi cette méthode? Vous pouvez nous expliquer quand on fait une heure de cours? Qu'est-ce qui se passe?
Vous avez apporté une petite, figurine.
Oui, justement, la Mélopie qui est ici. Et donc, c'est ludique parce que les enfants vont apprendre grâce à des histoires mémotechniques. Ils vont savoir que le Do est à cet emplacement sur la portée parce que c'est un vieux monsieur qui est trop vieux pour monter les escaliers. Et il va apprendre pareil pour les emplacements sur le clavier. Donc, voilà, tout s'apprend grâce à des histoires mémotechniques. Il y a des chansons aussi. Il y a des jeux, donc les enfants vont manipuler des notes, ils vont manipuler des dominos de rythme, etc. Donc voilà, c'est vraiment apprendre par le jeu.
Et c'est pour les enfants de quel âge? Ça commence à quel âge? Ça finit à quel âge?
Ça commence à 3 ans. La musique, ça ne finit jamais, l'anglais non plus.
Mais il y a eu des résultats, c'est-à-dire que vous avez constaté des enfants âgés de 3 ans qui, au bout de quelques cours, commencent à imprégner et connaître la musique?
Alors, les enfants, oui, effectivement, connaissent très rapidement la musique. Notre objectif, par contre, ce n'est pas forcément de créer des petits Mozart. C'est de faire en sorte que la passion naisse. Et il y a différentes facettes de la musique. Très souvent, les méthodes, en fait, vont se limiter à l'apprentissage du piano ou du solfège. Nous, on va aller beaucoup plus loin, on va faire de la musicologie, ils vont découvrir les instruments de musique, les œuvres, les compositeurs. Et même si plus tard, il ne jouera pas d'un instrument de musique, il va être sensibilisé à la musique. Et il va l'écouter tout au long de sa vie. Donc, c'est plutôt une passion, en fait, que l'on veut transmettre.
François Siegel, notre coach, que dites-vous sur Mélopie ?
Bah, ils regrettent de ne pas avoir connu Mélopie, parce que je vais vous raconter une anecdote. À l'époque où on est en âge d'apprendre la musique, il y avait au dernier étage de l'appartement où vivaient mes parents une dame qui était professeure de piano, premier prix de conservatoire. Et donc j'étais chez cette dame, qui était une amie de la famille, pour commencer à me tester au piano. Je suis revenu assez vite, elle a dit à ma mère, laisse tomber, c'est pas la peine. Donc ma carrière musicale a été freinée immédiatement, d'où évidemment une immense frustration, parce que je considère la musique comme une barrière, vous voyez, quelque chose qui ne m'est pas autorisé. Et alors j'ai regardé votre site et je me suis dit par quoi je vais commencer, la 3 ans, la 5 ans ou la 7 ans, parce qu'il faut que je commence à zéro. Mmh. Mais je suis ravi que, je veux dire, on puisse apprendre, aborder la musique autrement que par le traditionnel solfège, qui est un peu discriminant.
Elle a un coût, votre méthode, ça coûte combien?
Alors la méthode de musique est à 79€ et la méthode d'anglais est à 59€.
Ouais, c'est hyper, hyper pratique et ça donne des résultats. Ça existe depuis...
C'est plus vieux que moi parce que ça a été créé par ma mère, que j'ai récupéré donc l'entreprise il n'y a pas longtemps. Donc ça a plus de 30 ans, ça date de 1984.
Avec des résultats très efficaces. Merci beaucoup. C'était Mélopie, une méthode d'apprentissage de la musique ludique, rapide pour les jeunes enfants. Merci Diane Durand d'avoir été avec nous. Merci François Siegel, notre coach.
Merci.
Paul, on se retrouve demain.
Avec
nous
plaisir.
Parlerons de ces entreprises qui contribuent à faire remonter la parole citoyenne pendant le grand débat national.
Elisabeth Assayag, merci à vous. Demain, les auditeurs d'Europe 1 retrouveront Anissa. Voilà, je tiens à le préciser.